Laudetur Jesus Christus.
La France engagée aux côtés du gouvernement congolais. Emmanuel Macron appelle ce soir le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et à se retirer de RDC. Saison des pluies mortifères en Afrique orientale, le Kenya en particulier, touché par des inondations à haute intensité. Au moins 171 personnes sont mortes. Ce soir, le président kényan appelle l'armée pour des opérations d'évacuation. Tout le Proche-Orient suspendu à la possible trêve négociée par les médiateurs. Israël donne au Hamas jusqu'à demain soir pour obtenir une réponse. En attendant, au Liban, le bilan des pertes humaines et matérielles à la frontière sud depuis 7 mois vient d'être chiffré. Un constat alarmant. En cette veille du 1er mai, fête de Saint-Joseph travailleur, l'église de Québec alerte sur la crise alimentaire dans cette province canadienne, ajoutée à celle du logement et de l'inflation. Les évêques insistent sur les souffrances humaines derrière les statistiques.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonsoir. La déclaration de Paris était attendue. À Kinshasa, le président français appelle ce soir le Rwanda à cesser donc tout soutien aux rebelles du M23 et à retirer ses forces de RDC. C'était tout à l'heure lors d'une conférence de presse commune entre Emmanuel Macron et son homologue congolais Félix Tshisekedi. Conférence que vous avez suivie, Alexandra Sirgan.
Oui, elle a débuté avec la prise de parole du président français qui l'assure. Il ne peut y avoir de double standard en termes d'intégrité territoriale. Ce qui est défendu en Europe doit également l'être en Afrique.
La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Et l'urgence est à la désescalade.
Le chef de l'État français a également évoqué un engagement du président congolais à mettre fin aux agissements des FDLR, des rebelles hutus rwandais formés par des anciens génocidaires et dont l'objectif serait de renverser le régime du président Kagame. Félix Tshisekedi a ensuite pris la parole pour remercier la France de son soutien.
Avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix.
Une paix, oui, mais pas à n'importe quel prix. Le président congolais a précisé qu'une discussion avec le Rwanda serait possible qu'une fois que Kigali ait retiré ses troupes de la RDC.
Merci Alexandra Sirgan. Lendemain d'élections législatives au Togo, un scrutin jugé libre, équitable et transparent selon la mission électorale de la communauté des États sahélo-sahariens. Cette dernière n'avait pas inclus l'Église catholique qui le demandait dans son observation. L'opposition dénonce elle des irrégularités dans ce vote d'hier. Le climat politique de ce pays traditionnellement stable en Afrique de l'Ouest est perturbé depuis l'adoption d'une nouvelle constitution contestée il y a 10 jours. En Afrique de l'Est, le Kenya endeuillé, au moins 171 personnes sont mortes dans les inondations ravageant le pays depuis le mois de mars. Ce soir, l'armée est mobilisée pour évacuer les populations des zones à risque. À Maïmayou, à une soixantaine de kilomètres du nord de la capitale Nairobi, une centaine de personne a été secourue, plus de 70 sont portées disparues. Le reportage sur place de notre correspondante au Kenya, Alban Tiroir.
Dans ce village près de Maïmayou, la coulée d'eau a tout emporté sur son chemin. Une voiture a été projetée dans un arbre où se trouvaient des habitations. Il n'y a plus qu'une vaste étendue de boue. Clementu Tachiri vivait ici avec sa mère et son frère.
J'ai été réveillé par le bruit et les voisins qui criaient. J'ai ouvert la porte et j'ai vu des vagues plus hautes qu'un camion. C'était impossible de sortir, alors nous sommes montés sur le toit. Et c'est de là que nous avons été secourus. Notre maison a été complètement emportée par les eaux. Mes poulets et mes chèvres aussi. Je n'avais jamais vu ça ici.
La Croix-Rouge kényane a installé un lieu d'accueil dans une école à proximité. Des victimes sont venues pour y trouver refuge, d'autres pour avoir des nouvelles de leurs proches portés disparus. Les recherches continuent. John Balou est en charge des opérations. C'est le secrétaire général adjoint de la Croix-Rouge kényane.
Nous ne pouvons pas utiliser de machines car les sols sont trop inondés, donc c'est un travail terriblement laborieux. Il faut fouiller parmi les débris avec les mains en longeant le lieu du sinistre.
À travers le Kenya, plus de 180 000 personnes ont été déplacées à cause des récentes pluies diluviennes, selon les autorités. La rentrée scolaire qui devait avoir lieu hier a été repoussée à lundi prochain et le président William Ruto a convoqué en urgence son gouvernement ce matin. De retour de Maïmaïou, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
Et l'archevêque kényan de Nyeri, Mgr Anthony Mueria, dans les hauts plateaux centraux du pays, appelle aussi à l'aide humanitaire pour subvenir aux besoins des déplacés. Septième mission au Proche-Orient pour Anthony Blinken après la Jordanie. Le secrétaire d'État américain attendu en Israël ce soir. Benjamin Netanyahou met lui la pression, promet une offensive sur Rafah avec ou sans accord de trêve. Les pays médiateurs attendent en effet une réponse du Hamas à leur proposition de trêve de 40 jours associée à une libération d'otages. L'État hébreu donne jusqu'à demain soir. Depuis 7 mois, en tout cas, les pertes humaines et matérielles plombent le Liban voisin. Deux centres de recherche des secteurs publics et privés ont établi un bilan détaillé des affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Le chef du Parlement, Nabih Berri, en a donné même une copie au ministre français des Affaires étrangères qu'il a reçu cette semaine à Beyrouth, où l'on retrouve Paul Khalife.
438 personnes, dont 100 civils, 337 combattants du Hezbollah et un soldat libanais, ont été tués par l'armée israélienne en près de 7 mois d'affrontements à la frontière entre le Liban et Israël. Parmi les civils figurent 3 journalistes et 20 de secouristes et d'ambulanciers. Les bombardements et les raids israéliens se concentrent sur 45 localités proches de la frontière. 12 d'entre elles ont subi des destructions considérables selon le Centre national de recherche scientifique et le Centre international d'information. 1700 maisons ont été entièrement rasées, 1500 partiellement détruites et 4100 ont été endommagées. Les combats ont poussé plus de 90 000 habitants à fuir leur foyer dans la zone frontalière. Ce n'est pas tout. Les images satellites visionnées par le Centre national de recherche scientifique montrent que 1 060 hectares ont été détruits par les flammes en raison des munitions incendiaires et du phosphore blanc utilisé par l'armée israélienne. Le Centre international d'information estime les pertes économiques totales à 1 600 millions de dollars, dont 350 millions pour la seule région du sud du Liban. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique attendu en Iran la semaine prochaine. L'Argentin Rafael Grossi participera à la première conférence internationale sur l'énergie nucléaire. Le regain des tensions entre la République islamique et l'État hébreu a ravivé les craintes d'attaques contre les installations nucléaires. Le 1er mai, demain, c'est bien sûr la commémoration de Saint-Joseph artisan. Dans leur message en vue de cette fête, les évêques du Québec attirent l'attention sur la crise alimentaire en cours dans cette province francophone. Un Québécois sur 10 est en précarité alimentaire. Le nombre de personnes ayant recours aux banques alimentaires est en constante augmentation depuis 4 ans. Jean-Charles Puzolu.
850 000 Québécois en 2023 ont eu recours aux banques alimentaires pour se nourrir et nourrir leur famille. Cette statistique est contenue dans un rapport des 24 évêques de la province canadienne qui met en évidence une autre donnée, l'augmentation de 73% de ce chiffre par rapport à 2019. À l'occasion de la fête des travailleurs, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec tient à attirer l'attention sur le fait que le phénomène touche précisément un nombre croissant de travailleurs dont les revenus n'ont pas suivi le rythme de l'inflation ces dernières années. Monseigneur Marc Pelchat, président du Conseil Église et Société des évêques du Québec.
Même des gens qui sont au travail, qui ont des emplois, ne parviennent pas boucler leur budget pour assurer l'alimentation de la famille.
Le Canada a ratifié un pacte international sur les droits économiques et sociaux en 1976 qui établit le droit fondamental à l'alimentation. En revanche, Ottawa n'a pas ratifié le protocole facultatif de 2008 qui encadre d'éventuelles poursuites en cas de violation de ce droit. Les évêques québécois plaident en faveur de l'adoption du protocole.
Nous appuyons toutes les démarches pour interpeller nos représentants politiques à l'égard de la ratification de ce protocole.
Mgr Pelchat soutient également une taxation des profits des entreprises du secteur alimentaire, taxe qui serait redistribuée aux banques alimentaires et aux cuisines collectives.
Jean-Charles Puzolu. Et en ce mois de mai qui commence, le pape lui prie pour la formation des personnes consacrées dans son intention mensuelle. Le souverain pontife rappelle que comme un diamant brut qui a besoin d'être poli, toutes les vocations doivent être éprouvées et formées au contact direct du monde extérieur. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre écoute. Demain, 1er mai, pas de journaux, mais rendez-vous dès 9h du matin sur vaticannews.va pour suivre en direct l'audience générale. Très belle soirée.